Bonjour à tous, merci Bart pour cette élogieuse introduction et merci à Viviane Torder pour l'invitation. Donc effectivement aujourd'hui je vais vous parler des implants rétiniens. Comme vous le savez, donc en janvier 2018 nous avons réalisé le premier implant Argus 2 à Luzet-Kent. Chez une dame atteinte de rétinite pigmentaire au stade ultime de la maladie. Ceci simplement pour dire que notre patiente est d'accord de partager les photos et les vidéos que je vais vous montrer et que nous n'avons, à titre personnel ou même en tant que service, aucune implication financière dans ce projet. Alors tout d'abord, quand on parle d'implant rétinien, qu'est-ce qu'on veut dire ? Le mot rétinien n'est peut-être pas tout à fait correct parce qu'en fait, on ne remplace pas toute une rétine. C'est souvent la question qu'on reçoit des patients qui pensent qu'en fait, il existe une rétine artificielle. En fait, non. Un implant rétinien remplace, en fait, on devrait dire, le terme exact devrait être un implant de photorécepteur. Parce que qu'est-ce qu'on remplace, en gros, c'est le fonctionnement des photorécepteurs. Donc, les implants rétiniens vont reprendre cette fonction changer, en gros, la lumière en signal, en impulsion électrique. Donc, ça se situe à ce niveau-ci. C'est ce niveau que l'implant rétinien va pouvoir remplacer. Quel est le principe en fait de fonctionnement? C'est qu'on part du principe que dans une maladie comme la rétinite pigmentaire, uniquement les photorécepteurs vont être atteints, mais que le reste de la rétine va pouvoir fonctionner. Donc la rétine qu'on appelle la rétine externe est déficiente. Par contre, la rétine interne et les cellules ganglionnaires qui après vont former le nerf optique, ça fonctionne bien. Donc on se situe à cet endroit-ci à nouveau pour bien vous expliquer le fonctionnement. Donc on va remplacer uniquement les photorécepteurs et utiliser la rétine qui subsiste chez le patient, la partie de la rétine qui est intacte. Alors c'est très important, je vous l'expliquerai tout à l'heure, parce que pour être sélectionné en quelque sorte pour pouvoir bénéficier de cet implant, il faut que le restant de la rétine, le nerf optique et toutes les voies visuelles soient intactes afin de pouvoir bénéficier de cette technologie. Ceci est un tableau non exhaustif des différents implants rétiniens qui existent ou qui ont existé. Il y a deux grosses catégories, si on peut dire ça comme ça. Ce sont les implants qui se posent soit sur la rétine, qu'on va appeler les implants épirétiniens, ou les implants qui se posent sous la rétine, ou implants sous-rétiniens. En gros, le principe est quasiment toujours le même, c'est-à-dire que le patient porte des lunettes équipées d'une caméra. La caméra va capter les images qui vont être processé dans un mini-ordinateur que le patient porte sur lui. Et l'information digitalisée va revenir via un système d'émetteur-récepteur vers les électrodes qui sont posées soit sur la rétine, soit sous la rétine. Dans les différents implants rétiniens, certains n'ont pas pu prouver une efficacité à long terme et certains projets sont arrêtés temporairement parce qu'ils pourraient reprendre, comme par exemple cet implant-ci qui était développé en Allemagne. Un autre projet qui était arrêté, c'était le Boston Retina Implant Project. Et je vais en fait vous parler principalement, donc l'implant que nous avons utilisé à Gand est l'implant de Argus 2 produit par la firme Second Sight, dont je vais vous parler vraiment beaucoup plus en détail. Et alors pour vous expliquer le fonctionnement, je vais vous montrer une vidéo qui est produite par Second Sight qui va expliquer le fonctionnement de l'implant. Je ne sais pas si on peut avoir le son de la vidéo. Is there a more comme tu l'as to have avant de vidéo? Bon, apparemment il n'y a pas de son, mais c'est pas grave. Donc, voyez que le patient scanne en fait avec la caméra qui est située sur les lunettes. L'information est dirigée vers un mini ordinateur. Donc, l'information digitalisée revient vers un récepteur qui va à ce moment-là stimuler les électrodes qui sont posées sur la rétine, et la décharge électrique va stimuler les cellules rétiniennes qui sont intactes, et cet influx électrique va retrouver en fait le chemin tout à fait anatomique et normal des voies visuelles pour transmettre l'information jusqu'au cerveau, au lobe occipital. Donc voilà le grand principe. J'ai choisi de vous montrer en fait différentes technologies qui sont encore en cours d'essais cliniques actuellement. Donc nous avons ici le Bionic Vision Technologies, c'est un implant qui a été développé en Australie, où l'implant en fait se situe sous la choroïde. Donc c'est même plus que sous la rétine, c'est carrément dans la cellule, le tunique vasculaire qui est sous la rétine, mais qui s'appuie à peu près sur le même principe, sauf qu'ici l'antenne et le receveur n'est pas sur l'œil, mais bien derrière l'oreille. Un autre implant qui apparaît prometteur et assez nouveau, c'est l'implant qui a été développé par Pixium Vision, qui est une société française, mais qui eux réalisent pour l'instant des essais cliniques dans, non pas dans les cas de rétine pigmentaire, mais dans la DMLA sèche, donc la dégénérescence de la macula, liée à l'âge de forme sèche. Et cet implant a ceci de particulier qu'il fonctionne sans fil. Il fait à peine 2 mm carrés, donc 2 fois 2 mm, et 30 microns d'épaisseur. Donc si vous regardez par rapport à une pièce de 1 cent, voici à peu près la dimension de l'implant. Et cette petite dimension permet de l'injecter simplement avec une sorte de canule, comme on a pu voir pour la thérapie génique, l'injecter sous la rétine. Je vous parlerai à la fin de cet exposé des premiers résultats dans les essais cliniques. Mais l'avantage de cet implant est qu'il fonctionne sans fil et que c'est un implant en fait photovoltaïque, donc il peut être directement stimulé par la lumière sans avoir besoin donc du relais d'une antenne et d'un câble pour stimuler les électrodes. Alors revenons à notre implant, je dis notre parce que c'est l'expérience qu'on a donc à Gand, l'Argus 2, développé par la firme Second Sight. C'est l'implant qui était le plus implanté dans le monde, avec à peu près 300 patients implantés jusqu'à présent. C'est le seul implant qui a reçu l'approbation FDA, donc l'Agence de régulation des médicaments américaine, et le CE Mark, donc approuvé aussi au niveau, donc le marquage européen. Vous voyez donc les différents composants. Ici, nous avons les lunettes que porte le patient. Alors, notre patiente à Gand, qui est très coquette, a demandé d'avoir des verres qui ne soient pas fumés, mais des verres transparents. Et la caméra se situe ici, au milieu. Le processeur externe que le patient porte sur lui. Et alors, la partie oculaire, qui se subdivise en partie extraoculaire. Donc, cette partie-ci qui va être fixée sur la paroi de l'œil. Et le câble qui, lui, à partir d'ici, donc ceci va rentrer dans l'œil, et ici vous avez le support avec les électrodes qui c'est ceci en fait qui va être attaché à la surface de la rétine au niveau de la macula, donc la partie centrale de la rétine. Ceci encore plus en détail. On voit vraiment ici donc dans l'œil comment est-ce qu'on attache l'implant, ici les électrodes, comment est-ce qu'on les fixe à la rétine avec littéralement un petit clou. Donc il y a une petite ouverture qui est prévue ici pour l'attacher, ce qui permet de garder l'implant en place au fil du temps. Voici encore une autre photo. Alors, quelle est l'indication donc de l'Argus 2? Ça s'adresse aux patients qui ont une rétine pigmentaire en stade ultime. Et quelques patients atteints de choroïdérémie ont également été implantés. Alors, le cas particulier de la Belgique, nous pensons qu'en Belgique, la prévalence est à peu près de 1 sur 3000. Et à UZ-Kent, nous avons recensé 1500 patients. Donc, nous, en fait, c'est principalement, évidemment, le département d'ophtalmogénétique qui est dirigé par professeur Leroy. Et au-delà de 50 gènes sont impliqués dans cette maladie. Et comme vous le savez, la perte progressive des photorécepteurs va mener au long terme ou à un âge plus avancé, peut mener à une cécité totale. Alors, je crois qu'on arrive aux deux diaphes peut-être les plus importants de la présentation, parce que ce sont les questions qu'on a beaucoup quand on reçoit les patients en consultation, puisque depuis qu'on a fait l'implant, et bon, c'est normal, beaucoup de patients s'adressent à nous pour savoir s'ils pourraient entrer en compte ou pas pour bénéficier en fait de cet implant. Quels sont les critères d'inclusion? Nous avons, il faut être âgé de plus de 25 ans, il faut être adulte. Il faut avoir en fait une vision, une acuité visuelle basse, de maximum perception lumineuse aux deux yeux. Et ça, c'est vraiment très très important. Il faut que le patient ait vu antérieurement. Parce que, par exemple, pour des enfants qui naissent aveugles, ceci ne s'applique pas, étant donné qu'on utilise les voies visuelles anatomique au-delà des photorécepteurs, quelqu'un qui n'a jamais un enfant qui n'a jamais vu n'a jamais pu développer vraiment tout son système visuel qui doit se développer avant l'âge de 12 ans et il se développe uniquement s'il y a un stimulus visuel. Donc ce système ne se développe uniquement que si on voit. Donc ceci c'est vraiment très très important parce que on va dire ce qu'on appelle en fait des aveugles de naissance ne pourraient pas bénéficier de cet implant. Donc comme on l'a dit, s'adresse aux patients qui ont uniquement une perte de photorécepteurs. Il faut avoir la rétine interne, donc une fois qu'on quitte la couche des photorécepteurs, il faut que ça puisse fonctionner. Il faut un nerf optique intact, puisque toutes les informations vont passer par le nerf optique pour arriver jusqu'au cerveau. Il faut un œil qui ne soit pas ni trop court, ni trop, enfin à la limite trop court, ça va encore, mais certainement pas trop long. Parce que si l'œil est trop long, vous avez vu que l'électrode est reliée par un câble, ce câble n'est pas extensible, donc on aurait des difficultés lors de la chirurgie pour pouvoir bien fixer l'implant sur la rétine, et alors il faut que le patient, mais ça bon c'est pas un trop gros problème, si le patient par exemple a de la cataracte, il faut l'opérer avant, parce qu'évidemment il faut qu'on puisse continuer à suivre et voir ce qui se passe dans l'œil. Un autre facteur d'inclusion très important, c'est la psychologie du patient. Donc, il faut savoir que notre patiente, nous avons parlé avec elle pendant certainement presque un an, je pense, pour être sûre de la motivation, parce que cet implant demande énormément d'efforts, parce que la vue qu'on retrouve n'est pas une vue normale. Ce sont vraiment des stimulus, des phosphènes, en fait, donc des petits flashs lumineux. Si demandait à Rite, notre patiente, qu'est-ce qu'elle voit, elle dit à tout le monde, je vois un sapin de Noël. Donc, avec les lumières qui clignotent. Donc, c'est vraiment très, très difficile. Elle demande un effort énorme, en fait, au patient pour réinterpréter les signaux visuels qu'il perçoit, qui sont tout à fait différents d'une vision normale. Et donc, aussi très important, il faut éviter et bien parler pour éviter des fausses attentes. Parce que malgré tout, les patients rêvent de retrouver une vision normale, même s'ils disent « oui, je sais très bien que je ne vais pas voir comme avant ». Mais c'est très important et donc notre patiente aussi a fait quelques séances avec un psychologue pour qu'on puisse vraiment déterminer sa motivation et éviter toute fausse attente. Je crois que c'est vraiment très très important. Une autre diète très très importante, je crois, sont les contre-indications. Donc, les patients ayant un accident au niveau de la rétine, un accident de voiture avec perte de l'œil, traumatisme du nerf optique ou des voies visuelles, un glaucome. Donc, qu'est-ce que c'est un glaucome? C'est une atteinte du nerf optique où les fibres du nerf optique meurent progressivement jusqu'à disparaître, consiste également une contre-indication. Et la rétinopathie diabétique, en fait, les patients qui sont diabétiques, non contrôlés, peuvent développer une maladie vasculaire qui va endommager la rétine. Et c'est donc également un facteur d'exclusion. Comment ça s'est passé pour nous à Gand? Comment avons-nous pu réaliser ce projet? En fait, nous avons été aidés par le UZTN, donc l'hôpital universitaire lui-même, l'université de Gand et la ferme Second Sight. Tout le travail en amont, on l'a préparé ensemble, mais évidemment, professeur Leroy et son équipe, c'est eux qui ont vraiment pendant, je pense, presque 2 ans, essayé de trouver, entre guillemets, le patient idéal. Et essayer de parler, je crois qu'on a parlé, tu as parlé, Bart, avec différents patients, jusqu'à, en fait, vraiment essayer de voir pour qui ça conviendrait le mieux. Notre patiente n'est pas toute jeune. Au moment de l'implantation, elle avait 71 ans. Alors, on pourrait dire, voilà, c'était peut-être un peu un risque de prendre une dame plus âgée. Mais d'un autre côté, le mental, la cognition joue un grand rôle. Et pour nous, elle nous semblait, dans tous les patients, être la plus apte à bénéficier de ce traitement. Alors, moi-même, en tant que chirurgien, je suis allée au 15-20 voir opérer Pierre-Olivier Barral. C'est lui qui a fait les injections également de l'extrénale première dont le professeur Odo vient de nous parler. Et notre équipe de Low Vision, donc Low Vision, c'est équipe de base rééducation, base vision, a également dû subir, a eu un entraînement intense, sont également allés à Paris. Donc, on a pu bénéficier de l'expérience des 15-20. Ceci, c'est la présentation de notre patient, donc... Donc, je l'ai déjà dit, elle avait 71 ans, elle a une déficience dans un gène bien précis. Et je vais vous parler maintenant un tout petit peu de la procédure chirurgicale. Ça se passe comme un cerclage, donc autour de l'œil. On va venir donc sur la paroi de l'œil attacher différents éléments, dont l'antenne et le coil. Le receveur en fait, il faut vraiment être très très minutieux, très précis, parce que comme tous ces éléments sont précisément reliés entre eux et que on doit l'introduire à un certain moment dans l'œil, il faut vraiment, c'est au demi millimètre près, donc on suture les différents éléments autour de la sclère. Ensuite, on réalise une vitrectomie, donc on enlève le gel qu'il y a dans l'œil de façon à créer une cavité simplement liquide, hein, où il n'y a plus de gel dedans. Ensuite, on doit réaliser une incision quand même assez grande pour pouvoir introduire la plaque qui contient les 60 électrodes. Donc on a aussi des instruments vraiment dédiés à ça. Et puis vient le moment, en fait, dans mon expérience, c'était le moment le plus passionnant, à la fois passionnant et le plus difficile, c'était d'attacher ce clou ici, parce qu'en même temps qu'on met le clou, il faut bien positionner, ça c'est primordial, de bien positionner les électrodes par rapport au nerf optique et par rapport à la macula. Donc ici j'ai une vidéo de la chirurgie, mais je ne vais pas peut-être pas vous la montrer maintenant. Ceci, c'est l'OCT qui confirme donc que notre implant était bien positionné et qu'on n'en a que 182 microns de distance entre l'implant et la rétine, ce qui permet une très bonne stimulation électrique. Voici à 6 mois, vous voyez qu'on a une stabilité, l'implant n'a pas bougé. Et voici à 18 mois, donc c'était il y a quelques mois, puisque maintenant on va arriver en janvier, ça fera 2 ans qu'on aura fait l'implant. Donc, c'est la chance du débutant, mais en tout cas, c'est pour une première expérience, tout s'est vraiment bien passé et on a un résultat stable dans le temps. En tout cas, ceci, c'est l'approche uniquement chirurgicale et anatomique. On sait que ce type d'implant présente comme principale complication le décollement de rétine, l'hypotonie, donc la perte de tonus dans l'œil, éventuellement une infection dans l'œil. Heureusement, nous n'avons rien eu de tout ça. Et des études ont montré, concernant l'Argus 2, que c'est un implant qui est sécure et dont la fonction a été démontrée dans le temps. Ceci, c'est une étude à 3 ans, mais il y a également une étude sur 10 ans qui montre que c'est un système tout à fait fiable. Également très important pour les patients, nous savons aussi que il y a une réelle amélioration de la qualité de vie qui a été démontrée. Maintenant, je vais passer à la partie, donc on quitte la chirurgie, ça c'est fait. On va passer à la partie réhabilitation. Donc une fois que la dame, notre patiente a eu son implant, on a attendu 3 semaines. Et en fait, nous avions donc 3 buts. Il y avait 3 choses à lui enseigner progressivement. Donc, réapprendre à lire, mais bon, des caractères évidemment assez grands, faire certaines tâches et réapprendre à se mouvoir. Donc 3 semaines après l'opération, évidemment on laisse un peu l'œil se reposer et récupérer, On active l'implant pour une première fois. On apprend ce qu'on appelle le microscanning, c'est-à-dire que la patiente doit réapprendre à voir, mais simplement à penser que la caméra, elle est au milieu des lunettes. Donc, il faut bouger beaucoup plus la tête que si on regarde avec ses deux yeux. Vous voyez donc ici qu'elle active la caméra et on sait suivre en fait quelles sont les électrodes qui sont activées. Il faut aussi tenir compte du fait qu'on a un champ visuel qui est seulement maintenant de 20 degrés. Donc on l'a déjà dit, 60 électrodes et que la caméra est vraiment centrale. Maintenant, je vais vous montrer des exemples de vidéos où la patiente fait ce qu'on appelle du macro-scanning. Donc là, elle est dans un environnement beaucoup plus grand et elle doit essayer de trouver les poignées de sa garde-robe dans son dressing. C'est dommage qu'on n'ait pas le son, parce que je ne sais pas pourquoi on n'a pas de son. Parce qu'on entend ses commentaires qui sont en fait assez rigolos. Donc, parce que là, elle dit qu'elle trouve, et on lui dit, mais finalement, qu'est-ce que vous voyez? Et puis elle dit, ah ben je vois qu'il y a beaucoup de bazar dans mon armoire. Donc c'est dommage qu'on l'entende pas parce que c'est ce qu'elle dit en fait. C'est notre patiente est très terre à terre. Je crois que Bart peut en témoigner. Voilà. Alors ici, une autre. Bon, c'est sous-titré en flamand. C'est une vidéo où on voit qu'elle a c'est la table pour le café. Et donc elle identifie la cafetière, les tasses. Donc il faut toujours un bon contraste. Donc vous voyez que la nappe est noire et que les tasses sont blanches pour créer un contraste maximum. Alors on avance dans les mois et dans la réhabilitation. Maintenant, nous passons à la phase d'orientation et de mobilité. Donc ici, sa tâche, c'est de suivre la ligne. Excusez-moi. C'est de suivre. Je reviens ici. C'est de suivre le chemin. Donc le contraste entre le chemin goudronné et la pelouse. Alors, faisant partie de la réhabilitation, il y a aussi le fait que la patiente peut s'aider d'une canne blanche ou continuer à utiliser son chien d'aveugle. Ici, bon, c'est un test dans un parking où elle rite donc s'aide de sa canne blanche pour essayer de voir, on lui dit qu'il y a un mur en face. Donc là, elle le trouve avec la canne et puis. Elle confirme qu'elle l'a bien trouvé. Mais notre patiente est assez têtue et en fait elle refuse d'utiliser. Enfin, elle ne se trouve pas du tout confortable avec la canne blanche, donc elle ne l'utilise plus. Ceci, c'était, bah, comme vous voyez, il fait beau, c'était cet été. Et ça, c'est une vidéo qui montre, elle va en fait vers son petit-fils. Il dit, mamie, voilà, je suis là. Et voilà, elle est toute contente de l'avoir vue, évidemment. Donc voilà, c'est vraiment des exemples qui démontrent que la patiente retrouve certainement une autonomie, une qualité de vie. Et on l'a vu récemment, donc il y a un mois à peu près, elle dit que pour elle, ça change beaucoup au niveau social. Par exemple, si elle est à table avec des personnes, maintenant elle sait qui parle, elle sait orienter sa tête vers la personne qui parle. Elle dit, j'arrête de parler toute seule quand mon mari est déjà dans le salon et que je suis dans la cuisine et je crois qu'il est toujours là. Donc pour elle, maintenant, sans son implant, elle est complètement dans le noir et elle est vraiment très satisfaite. Ça lui a demandé vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. À un moment, on avait même peur qu'elle soit, entre guillemets, en burn-out, tellement on la sollicitait, on lui demandait toujours de travailler. Mais là, je crois ça a bien pris, effectivement, 18 mois avant de. Bah, qu'elle se rende compte du potentiel en fait de l'implant. Alors, l'intervention de Rita a été assez médiatisée. Nous-mêmes, nous avions organisé une conférence de presse et donc elle a pu parler. Mais vous voyez qu'ici, bon, c'est peut-être une transformation du journaliste, mais dans le titre du journal, c'est j'espère que je vais bientôt pouvoir revoir mes petits-enfants. Mais ça. Quand je parlais des fausses attentes, on était très clair là-dessus que elle ne revoit pas vraiment son petit enfant. Elle sait s'orienter vers lui, ce qui est tout à fait différent. Nous avons également récemment eu un reportage qui a été filmé par RTL pour l'émission Tout s'explique. Donc il y a eu des pas mal de retentissements médiatiques. Et c'était aussi une volonté de la part de Rite, parce qu'elle a dit, voilà, moi j'ai pu bénéficier de cet implant et je veux vraiment être témoin pour les patients en Belgique. Et si mon témoignage peut aider à faire bouger les choses, notamment au niveau de notre ministère de la Santé, pour que d'autres patients puissent bénéficier de telle technologie, je le fais volontiers. Et c'est vrai que par rapport à ça, elle nous a vraiment continué à nous aider. Alors, par rapport à notre expérience ici, à peu près 18 mois après la chirurgie, nous avons eu un bon résultat chirurgical, un bon résultat fonctionnel. Notre patiente a certaines capacités de relire des grandes lettres, de s'orienter et une qualité de vie, certainement une autonomie qui est améliorée, sans aucun doute. Donc, comme on l'a déjà dit, ça nécessite vraiment une très très grosse réhabilitation. C'est pas que de la chirurgie. Une fois que la chirurgie est faite, ça c'est important également, mais il y a un très très gros travail après des équipes de low vision pour réapprendre, et un gros travail de la part du patient. Et alors, je ne soulignerai jamais assez que c'est vraiment quelque chose de interdisciplinaire au sein du service d'ophtalmologie. C'est vraiment parce que on a un service qui où il y a toutes ces différentes spécialités qu'on a pu faire ce projet. Alors on en reparlera certainement dans la discussion, mais quel est le futur maintenant par rapport à cet Argus 2? Donc je précise bien l'Argus 2, c'est que la société Second Sight, je vais en parler dans un instant, a développé également un implant cortical, donc un implant qui se branche entre guillemets directement au niveau du cerveau, et notamment pour des raisons financières, ne souhaite pas continuer à développer, c'est même pas développer, mais à commercialiser l'Argus 2, en tout cas d'ouvrir des nouveaux marchés. Nous avions essuyé également un refus de la part de l'INAMI pour un remboursement éventuel, mais en plus de ce refus de l'INAMI, nous sommes confrontés au fait que Second Sight ne veut pas ouvrir de nouveaux marchés. Donc, dans l'état actuel des choses, malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de proposer cet implant bien spécifique à d'autres patients dans l'état actuel des choses. Mais je voudrais quand même vous donner un message d'espoir, c'est-à-dire que où est-ce qu'on en est dans les implants rétiniens? Comme vous l'avez vu tout au début de ma présentation, l'Argus 2 n'est pas le seul à être développé. On a différentes technologies, on a maintenant des implants qui commencent à se développer sur un système donc de photovoltaïque, c'est-à-dire une implantation et une chirurgie qui serait moins lourde parce qu'il y a, ce sont des implants qui peuvent être stimulés directement par la lumière. Donc, là où on en est maintenant, c'est qu'on a des implants qui permettent de reconnaître des gros contrastes, de se localiser et d'avoir une capacité à lire, mais qui ne nous sort pas de ce qu'on appelle la cécité légale. Donc, même en ayant son implant, Rite reste de façon strictement, d'un point de vue légal, reste une patiente définie comme aveugle. Mais comme vous le voyez, il y a énormément de projets, différents implants qui sont développés de par le monde pour apporter, l'idée c'est vraiment de pouvoir apporter une vue qui serait beaucoup plus proche d'une vue normale, notamment les implants qui sont sous la rétine peuvent eux arriver à un résultat anatomique qui est beaucoup plus proche de la physiologie d'une rétine normale, puisque étant sous la rétine, il se trouve au niveau des photorécepteurs et on peut retrouver en fait la hiérarchie normale de la rétine, la fonction de la rétine, puisqu'ici l'Argus 2 se pose sur la rétine, donc on bypasse tout un système de localisation, de l'architecture intrinsèque de la rétine, alors que les implants sous-rétiniens apportent l'espoir qu'on pourrait retrouver une vue beaucoup plus plus précise en quelque sorte. Et alors je vais terminer par parler de l'implant cortical qui est le Orion ou Orion en français, développé également par Second Sight, et les premiers résultats de sécurité et les premiers résultats fonctionnels ont été comment dire, communiqué en octobre dernier à l'American Academy of Ophthalmology, qui est un des plus grands congrès en rétine dans le monde. Et ces résultats ont montré que 6 patients ont été implantés aux États-Unis avec des résultats visuels qui étaient comparables, en tout cas pas inférieurs à l'Argus 2. C'est donc un autre système et ce ne sera pas implanté par des chirurgiens de la rétine, mais bien par des neurochirurgiens, parce que l'implant se branche, entre guillemets, directement au niveau du cerveau. Voilà, je voudrais vous remercier pour votre attention et j'en profite pour vous présenter, bon, professeur Leroy ne se présente plus, mais docteur Van Kouwenberg, qui est notre coordinatrice d'études, et notre équipe de Low Vision. Donc, ce sont les orthoptistes ici qui ont vraiment fait tout le travail de réhabilitation, et j'en profite aussi pour les remercier.